Chapitre 6. La télé tonitruait. Alors qu'il descendait le vaste escalier poussiéreux de l'immeuble vide jusqu'à l'étage du dessous, John Isidore finit par reconnaître la voix familière de l'ami Buster, qui babillait joyeusement à l'intention d'une audience vaste comme le système solaire. « Ah ah, mes amis, poum patapoum !» Il est l'heure des prévisions météorologiques pour demain, et d'abord la côte est des États-Unis. Le satellite Mangouste nous signale qu'il va y avoir de fortes retombées autour de midi qui iront ensuite en diminuant. Alors tous ceux qui doivent s'aventurer dehors feraient bien d'attendre l'après-midi, hein? Et puisqu'on parle d'attendre, il ne reste plus que 10 heures avant la grande nouvelle, ma révélation spéciale. Dites à vos amis de regarder, je vais vous dévoiler quelque chose de vraiment stupéfiant. Et si vous pensez que c'est juste pour faire monter l'assaut...
La télévision s'évanouit sitôt qu'Isidore eut frappé à la porte. Elle ne s'était pas simplement tue, elle avait cessé d'exister, renvoyée d'effroi dans sa tombe par ses coups à la porte. Il pouvait percevoir la présence de vie derrière cette porte close, outre celle de la télé. Ses sens, artificiels ou pas, détectaient une terreur sans nom, hantée, irradiée par un être rancogné contre le mur du fond de l'appartement, comme pour lui échapper.
« Hé !» lança-t-il. « J'habite au-dessus. J'ai entendu votre télé. Je suis venu faire connaissance, d'accord ?»
Il attendit aux aguets. Pas un bruit, pas un mouvement. Ses paroles n'avaient pas arraché l'inconnu à sa prison.
« Je vous ai apporté un cube de margarine. »
Il restait à proximité de la porte pour que sa voix en traverse l'épaisseur.
« Je m'appelle J.R. Isidore. Je travaille pour le célèbre vétérinaire Hannibal Sloat. Vous en avez forcément entendu parler. Je suis quelqu'un de bonne réputation. J'ai un emploi. Je conduis la camionnette de Monsieur Sloat. »
La porte s'entr'ouvrit timidement sur une petite silhouette féminine recroquevillée qui hésitait à l'évidence à prendre ses jambes à son cou. Elle demeurait néanmoins à la porte, s'y raccrochant comme pour ne pas tomber. La peur lui conférait une dégaine de malade. Elle déformait les lignes de son corps, lui donnait l'air d'avoir été coupée en morceaux, puis recollée n'importe comment avec une certaine malice. Ses yeux, immenses, devinrent vitreux quand elle essaya de sourire. Il comprit soudain.
« Vous vous croyez toute seule dans l'immeuble ? Vous pensiez qu'il était abandonné ?»«
Oui, »
murmura la fille en hochant la tête.
« Mais c'est une bonne chose d'avoir des voisins. »
« Fille Isidore,
moi je n'en avais aucun avant votre arrivée. Et Dieu sait que ça n'avait rien d'amusant. »
« Vous vivez seul dans cet immeuble ?»
s'enquit la fille.
« À part moi ?»
Elle semblait moins timide à présent. Son corps s'était redressé et elle lissait d'une main sa sombre chevelure. Il pouvait voir à présent sa jolie petite silhouette, ses beaux yeux bordés de longs cils noirs. Prise à l'improviste, elle ne portait rien d'autre qu'un pantalon de pyjama. Et derrière elle, il apercevait une pièce en désordre. Ça et là gisaient des valises ouvertes, leur contenu à demi déversé sur le sol jonché de déchets. Mais c'était logique, elle venait à peine d'arriver.
« J'en suis le seul occupant, en dehors de vous !»
finit par répondre Isidore.
« Et je ne vous dérangerai pas !»
Il se sentait morose. Sa proposition, digne d'un authentique rituel d'avant-guerre, avait été repoussée. Pour tout dire, la fille ne semblait même pas en avoir eu conscience, à moins qu'elle ne comprenne pas à quoi servait un cube de margarine. Son intuition lui soufflait que cette fille semblait plus confuse qu'autre chose, tout occupée à émerger de la terreur indicible qui l'avait engloutie.
« Ce bon vieux Buster !»
lança-t-il dans l'espoir de détendre l'atmosphère.
« Vous l'aimez bien ? Je le regarde tous les matins avant d'aller au boulot, et à nouveau le soir quand j'en rentre. Je le regarde en prenant mon dîner, et puis j'essaie de tenir jusqu'à sa toute dernière émission. Enfin, ça c'était avant que ma télé ne me lâche.
Qui ? »
La fille s'interrompit aussitôt. Elle se mordit la lèvre, comme si elle était furieuse, contre elle-même à l'évidence.
« L'ami Buster, »
expliqua-t-il. Il trouvait étrange qu'elle n'ait jamais entendu parler du plus désopilant de tous les comiques télé encore sur Terre.
« D'où est-ce que vous venez ?»«
Je ne vois pas en quoi ça vous regarde. »
Elle leva un bref regard dans sa direction. Quelque chose dans ce qu'elle vit dut la rassurer, car son corps se détendit notablement.
« Je serai très heureuse d'avoir de la compagnie, » dit-elle, « mais plus tard, quand je serai un peu mieux installée. Pour l'instant, bien sûr, c'est hors de question. »
« Pourquoi ça ?»
Il était perplexe. Tout en elle le rendait perplexe.
« Peut-être que je vis seule ici depuis trop longtemps. À force, je suis devenue bizarre. Les têtes de piaf sont comme ça, paraît-il. »
Cette seule idée le renfrogna davantage encore.
« Je pourrais vous aider à déballer vos affaires ?»
risqua-t-il. Mais la porte s'était déjà pratiquement refermée devant son nez.
« Et vos meubles ?»«
Je n'ai pas de meubles. » »«
Tous ces trucs ?»
D'un geste, elle indiqua la pièce derrière elle.
« Ils étaient déjà là. »
« Ils ne feront pas l'affaire !»
insista Isidore. Un simple coup d'œil suffisait à le voir. Les chaises, la moquette, les tables, tout avait pourri. Elle s'affaissait en cœur, victime de la force despotique du temps et de l'abandon. Ça faisait des années que cet appartement était inhabité, ce qui l'avait rendu peu ou prou inhabitable. J.R. ne voyait pas comment elle pouvait envisager de vivre dans un tel décor.
« Écoutez, » dit-il avec enthousiasme, « si on fait le tour de l'immeuble, on devrait pouvoir vous dénicher des trucs un peu moins déglingués. Une lampe par-ci, une table par-là. »
« Je vais faire ça. » fit la fille, toute seule. « Merci. »
« Vous iriez dans ces appartements toute seule ?»
Il n'en croyait pas ses oreilles. « Pourquoi pas ?» Elle se mit de nouveau à tressaillir nerveusement, grimaçant devant la certitude d'avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas.
« J'ai essayé, »
dit Isidore, « une fois.
Depuis, je me contente de rentrer chez moi sans penser au reste. Ces appartements dans lesquels personne ne vit, il y en a des centaines, tous remplis des biens de leurs anciens occupants, leurs photos de famille, leurs vêtements. Ceux qui sont morts ne pouvaient rien emporter et ceux qui ont émigré ne voulaient rien emporter. À part mon appartement, cet immeuble est entièrement tropié. »
Tropié ?
Elle ne comprenait pas.
La tropie, ce sont les objets inutiles, les imprimés publicitaires, les boîtes d'allumettes vides, les papiers de chewing-gum ou les journaux de la veille. Quand il n'y a personne dans le coin, la tropie en profite pour se reproduire. Par exemple, si vous allez vous coucher en laissant de la tropie dans votre appartement, vous en trouvez le double à votre réveil le lendemain matin. Elle n'arrête pas de croître, encore et encore.
Je vois.
La fille le fixait d'un air hésitant, ne sachant trop s'il fallait le croire, incapable de déterminer s'il parlait sérieusement.
C'est la première loi de la tropie, fit-il. La tropie chasse la non-tropie, comme la loi de Gresham à propos de la mauvaise monnaie. Et dans ces appartements, il n'y a plus personne pour s'opposer à la tropie.
Elle a donc complètement pris le pouvoir,
conclut la jeune femme. Elle hocha la tête.
Je comprends maintenant.
Cet appartement, celui que vous avez choisi, il est beaucoup trop tropié pour qu'on puisse y vivre. On peut réduire le facteur tropie. Faire comme je vous le disais, aller rafler des trucs dans les autres appartements, mais...
Il s'interrompit.
Mais quoi ?
On ne peut pas gagner.
Pourquoi ça ?
La fille était sortie dans le hall en refermant la porte derrière elle. Les bras, timidement croisés sur ses petits seins fermes, elle lui faisait face, avide de comprendre. Du moins, en avait-il l'impression ? Elle l'écoutait en tout cas.
Personne ne peut gagner contre la tropie,
expliqua-t-il,
ou alors, provisoirement, à un endroit donné. Chez moi, par exemple, j'ai réussi à créer une espèce de stase entre la pression de la tropie et de la non-tropie. Mais je finirai par mourir, ou par m'en aller, et la tropie reprendra aussitôt le pouvoir. C'est un principe universel à l'œuvre dans l'univers tout entier. C'est l'univers dans son ensemble qui s'achemine vers un état d'absolue tropie. À part, bien sûr, ajouta-t-il,
l'ascension de Wilbur Mercer. La fille le considéra.
Je ne vois pas le rapport.
C'est l'essence même du mercérisme.
Il se retrouva plus perplexe que jamais.
Vous ne participez pas à la fusion? Vous possédez une boîte à empathie quand même.
Un ange passa, puis...
Je n'ai pas apporté la mienne avec moi,
fit la fille avec circonspection.
J'espérais en trouver une ici.
Mais une boîte à empathie,
bégaya-t-il d'excitation,
est la chose la plus personnelle qu'on puisse posséder. C'est comme une extension de son corps, c'est le moyen d'entrer en contact avec d'autres humains, de cesser d'être seul. Mais vous le savez, tout le monde le sait. Mercer laisse même des gens comme moi...
Il s'interrompit. Mais trop tard, il l'avait dit et pouvait voir à son visage, à ses cils qui battaient d'une soudaine aversion, qu'elle avait compris.
J'ai presque réussi le test de QI,
ajouta-t-il d'une petite voix tremblante.
Je ne suis pas très spécial. Juste modérément. Pas comme certains que vous avez pu voir. Mais ce n'est pas quelque chose d'important aux yeux de Mercer.
Si vous voulez mon avis, on peut même compter cela comme une objection majeure au mercérisme.
Sa voix était nette, neutre. Elle n'avait eu d'autre intention que dénoncer un fait, sa position vis-à-vis des têtes de Piaf.
Je crois que je vais remonter chez moi,
fit-il. Et de commencer à s'éloigner d'elle, la main cramponnée à son cube de margarine, qui en était devenu mou et poisseux à force d'être tenu. La fille le regarda partir sans se départir de son masque de neutralité, puis elle le rappela.
« Attendez. »
Il se retourna.
« Pourquoi ?»«
Je vais avoir besoin de vous, pour me trouver des meubles corrects, dans les autres appartements, comme vous l'avez dit. »
Elle marcha tranquillement dans sa direction, son torse nu bien dessiné, mince, sans le moindre excès de graisse.
« À quelle heure rentrez-vous du travail ? Vous pourrez m'aider à ce moment-là. »
Vous pourriez peut-être nous préparer à dîner, si je rapportais les ingrédients nécessaires.
Non, j'ai trop de choses à faire.
La fille avait balayé sa proposition avec une certaine désinvolture, ce qu'il ne manqua pas de remarquer, sans pour autant le comprendre. Maintenant que sa peur initiale avait diminué, quelque chose de nouveau commençait à émaner d'elle. Quelque chose de plus étrange. Et, trouvait-il, de regrettable. Une certaine froideur. Comme l'haleine du vide qui séparait les mondes habités, l'haleine de nulle part. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elle disait ou faisait, mais avec ce qu'elle ne disait et ne faisait pas.
« Une autre fois, » lança-t-elle,
et de reculer vers la porte de son appartement.
« Vous avez bien compris mon nom ?»
s'enquit-il avec empressement.
« John Isidore, je travaille pour... »
« Vous m'avez dit pour qui vous travailliez. »
Elle s'était brièvement arrêtée à la porte, qu'elle rouvrit alors. Une personne extraordinaire nommée Hannibal Sloat, qui, je n'en doute pas, n'existe que dans votre imagination.
« Moi, je m'appelle... »
Elle lui adressa un ultime regard sans chaleur tandis qu'elle retournait dans son appartement, hésita, termina sa phrase. « Rachel Rosen. »
« De la Fondation Rosen ? » Le plus grand fabricant de robots humanoïdes du système, ce qu'on utilise pour notre programme de colonisation.
Une expression complexe traversa aussitôt le visage de la jeune femme.
« Non, »
dit-elle, « je n'en ai jamais entendu parler, je ne sais rien à leur sujet. Encore un coup de votre imagination de tête de piaf, je suppose. John Isidore et sa petite boîte à empathie personnelle. Pauvre monsieur Isidore. »
Mais votre nom laisse suggérer...
Je m'appelle Pris Stratton.
C'est mon nom de femme mariée, celui que j'utilise toujours. Vous pouvez m'appeler Pris.
Elle réfléchit, puis... Non.
On ferait mieux d'en rester à Mademoiselle Stratton. Nous ne nous connaissons pas, après tout. Pas moi, du moins. La porte se referma sur elle, laissant Isidore seule dans l'obscurité au milieu du hall couvert de poussière.